faut bien rappeler à l'enfant que de toute façon, c'est pas lui qui a mis au monde ses parents.
Au fond, il n'y a absolument aucune échelle scientifique pour déterminer si on est une fille facile ou pas.
Il s'est passé quelque chose qui fait qu'un jour, on va arrêter de fumer.
C'est pas une maladie imaginaire.
Je voulais pas avoir l'étiquette pauvre aveugle.
Un divorce ne sonne pas le glas de sa vie amoureuse.
Des mamies, il y en a des tonnes. Des mamies Odile, il y en a un peu moins.
C'est le grand jour, le début des épreuves du bac pour ceux qui sont en terminale. Des épreuves aussi à passer cette année pour ceux qui sont en première. Les étudiants planchent. Certains candidats parmi eux sont sourds ou malentendants. Ils disposent de quelques aménagements, notamment un tiers-temps supplémentaire pour l'examen, mais ils doivent quand même traverser de nombreuses difficultés au cours de leurs études pour en arriver jusque-là. La scolarité est-elle plus difficile pour les jeunes sourds? Faut-il que les étudiants choisissent des classes spécialisées? Le bac est-il adapté et faisable? Comment s'orienter professionnellement après? Et vers quel métier? C'est le témoignage d'Alexis aujourd'hui et pendant une heure, étudiant sourd qui passe le bac. Bienvenue dans Vivre FM, c'est vous, l'émission qui parle de vous. Bonjour et bienvenue dans Vivre FM, c'est vous, votre rendez-vous quotidien, santé et société. Comme chaque jour, on aborde un sujet qui vous concerne. Aujourd'hui, c'est le premier jour des épreuves du bac. Ça commence avec la philosophie. Et ce midi, on s'intéresse aux candidats qui sont sourds, leurs difficultés, leur succès aussi. Avec nous pour témoigner Jean-François Dutheil, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de l'Institut National des Jeunes Sourds de Paris. Et avec nous également Alexis Dusset, qui est élève en première art appliqué et qui est interprété par Monique Gendreau avec nous, qui lui prête sa voix au micro. Bonjour à vous deux. Dans quelques instants, on débute tout de suite en parlant du bac de français et d'histoire géo. Alexis Dusset nous dira comment il le sent, les matières où il se sent à l'aise, comment se sont passées les révisions. Et on rappellera aussi les dispositions en particulier pour les candidats qui sont en situation de handicap. En seconde partie d'émission Retour en arrière, on fera connaissance avec vous, Alexis, votre parcours scolaire, les difficultés qui sont causées par la surdité et aussi comment vous vous en sortez. Un jeu télé aussi où vous avez participé. Et puis on présentera l'Institut National des Jeunes Sourds de Paris, un enseignement adapté mais classique et public. En fin d'émission, l'avenir professionnel, vers quel métier s'orienter quand on est sourd? Y a-t-il des métiers interdits? Faut-il travailler plus que les autres pour s'en sortir? Vous découvrirez le témoignage de Laetitia Darras, qui est Bac plus 5, et maintenant elle est webmestre à la mairie de Paris. Elle reviendra sur sa recherche d'emploi et sur les premiers jours de travail. Comme chaque jour, avant de se séparer, on passe en revue les idées reçues et vos questions posées sur le www.vivrefm.com, rubrique émission, et Vivre FM, c'est vous. On parle du bac aujourd'hui, le baccalauréat qui a commencé pour tous les élèves de France, le bac de français et d'autres matières pour certains, pour ceux qui sont en première. Alexis est avec nous. Alexis, vous êtes sourd profond. Vous passez cette année le français et l'histoire géo. Est-ce que vous vous sentez prêt ou est-ce que vous en êtes?
Prêt, oui. Parce que depuis septembre, j'ai pris la mesure de l'enjeu, j'ai révisé régulièrement. Et puis j'ai un bon niveau de connaissance au niveau du collège, j'ai beaucoup appris de choses. Alors il y a effectivement quelques difficultés, mais des difficultés de langue écrite, parce que la syntaxe n'est pas facile à assimiler, par exemple au niveau du français, mais on fait des efforts. Ce qui est important, c'est effectivement savoir lire, pouvoir rechercher des documents. Au niveau de l'histoire, géographie, je maîtrise bien les sujets. Parce que je suis premier de la classe.
Ah, c'est bien. Alors, l'histoire et géographie, moi, c'était pas mon fort, personnellement. Est-ce que vous vous sentez plutôt stressé en ce moment où les révisions, au moment où on enregistre cette émission, les révisions sont intenses, j'imagine?
Non, je suis très calme. Parce que j'ai pratiqué les révisions régulièrement depuis le début. J'ai été très structuré et très rigoureux, donc il n'y a pas de souci particulier.
Jean-François Dutheil, c'est le moment fort pour certaines matières, pour les élèves de première, pour les élèves de terminale aussi. C'est le moment fort, le bac. Comment on se sent en ce moment? Comment se sent l'établissement et les élèves et les professeurs aussi?
Ben nous, on est un petit peu ému à chaque fois par ce moment parce qu'on attend aussi les résultats du bac. Et puis donc on est avec les jeunes, on essaie de les accompagner au mieux et puis on se rend compte chaque année finalement que les jeunes qui sont chez nous ont d'assez bons résultats au baccalauréat. Les années passant en tout cas, on a des résultats qui s'améliorent et on est extrêmement satisfait de ce point de vue-là. Mmh.
C'est l'Institut National des Jeunes Sourds de Paris et on va le rappeler pour nos auditeurs, hein, on prépare le bac que tout le monde prépare.
Oui, parce qu'en fait, c'est un établissement spécialisé, mais qui prépare à tous les diplômes de l'éducation nationale, comme dans un collège ou un lycée lambda. Hein.
Oui.
C'est un établissement public, et on prépare des bacs généraux, des bacs professionnels, des bacs technologiques. On suit un certain nombre de jeunes qui sont soit scolarisés dans l'établissement, soit en scolarité ordinaire à l'extérieur, donc comme Alexis. Hein. Et on a toute la palette des diplômes de l'éducation nationale.
Alors avant de demander à Alexis comment il fait pour réviser, et si le français ça se passe bien, on va expliquer aussi les épreuves, il y a l'oral, il y a l'écrit. Est-ce qu'il y a beaucoup d'écart, Jean-François Dutheil, de niveau? Est-ce qu'il y a des élèves plus en difficulté que d'autres?
On peut dire qu'il y a quand même pas mal d'élèves en difficulté, hein. Mais ça, je dirais que c'est une optique d'établissement un peu spécialisé, parce qu'il y a aussi beaucoup de jeunes sourds qui sont scolarisés en milieu ordinaire et que nous, on voit pas. Hein. Donc par définition, un établissement comme le nôtre voit des élèves en difficulté, mais en même temps, on est outillé pour les accompagner un petit peu plus que ce qu'on pourrait apporter dans un établissement d'éducation nationale. Mmh. Hein. Donc il y a un accompagnement éducatif, psychologique, social si nécessaire, des professeurs spécialisés... Et donc, il y a à la fois des élèves qui ont peut-être un peu plus de difficultés, mais auxquels on apporte un soutien renforcé par rapport à des élèves qui sont en milieu plus ordinaire. Hein, donc, bien sûr, on voit arriver un certain nombre de jeunes qui ont de grandes difficultés, qui ont des retards scolaires importants. Ensuite, il faut mettre en place des stratégies pour les accompagner et leur permettre de progresser. Hein.
Alexis, comment se passent ces révisions et puis quelle est l'atmosphère, le climat dans l'école en ce moment? On sait qu'il y a donc des élèves qui viennent de l'extérieur, d'autres qui sont tout le temps à cet institut. Est-ce que on se serre les coudes? Est-ce qu'on s'entraide? Comment ça se passe? Il y a une atmosphère pesante à l'approche du bac. Là, on le sait, dans quelques jours, ça a commencé au moment de la diffusion de cette émission.
Non, c'est pas une atmosphère pesante. L'année dernière, oui. Cette année, non. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de soutien, de révisions. J'ai été très accompagnée. Je travaille effectivement beaucoup chez moi, donc ça c'est assez lourd. Mais au niveau du soutien, par exemple, j'ai supprimé la langue espagnole pour pouvoir avoir des heures de soutien. Donc il y a eu des aménagements au niveau de mon emploi du temps. C'est vrai que c'est différent d'un planning d'un élève entendant. Il faut qu'on fasse beaucoup d'efforts. On est capable hein, d'acquérir les niveaux requis, mais par exemple en chimie, c'est un niveau faible pour moi, et puis j'ai pas de soutien, donc on partage avec les autres élèves qui sont en intégration. C'est un petit monde, hein, le monde de la surdité, et on essaye de s'entraider comme ça.
Les soutiens dont vous parlez, c'est qui? Qui est-ce qui vous entoure? Ou est-ce que vous débrouillez peut-être beaucoup tout seul?
Oui, ça dépend. Par exemple, au niveau du soutien, c'est un professeur spécialisé qui nous l'amène. Au niveau du français, c'est un professeur qui connaît bien les sourds et qui est capable d'adapter son enseignement aux sourds. Et c'est vrai que je suis le seul sourd parmi 24 élèves entendants dans la classe. Donc ça dépend. Les relations, je suis un peu à l'écart. C'est vrai que j'ai 19 ans et que les autres ont 15, 16 ans et qu'il y a un écart d'âge qui fait que je suis plutôt concentrée sur mon travail et je m'occupe pas de ce qui se passe à côté, un peu de chahut. Donc voilà, pour moi, c'est le travail avant tout.
Ces moments de révision. Alors, on va expliquer comment se passent les épreuves que vous passez cette année. Par exemple, je vois, et vous nous l'avez dit avant de commencer l'émission, que vous passez l'histoire géo à l'oral. Alors, expliquez-nous comment ça va se passer, cette histoire géo à l'oral.
C'est une bonne question. À l'oral, ça veut dire que moi, je peux parler et je signe en même temps. Mais il y a la présence d'un professeur spécialisé qui est présent à l'épreuve. Parce que nous avons travaillé ensemble. Et il connaît bien, effectivement, on a un code quelque part linguistique et il le connaît bien. Et c'est vrai qu'on ne prend pas un interprète professionnel parce qu'il n'a pas la connaissance et il n'a pas ce code. Et on a davantage confiance en un professeur spécialisé qui nous a suivis sur notre scolarité. Ça veut dire que je peux parler quand on présente un texte, quand il s'agit d'un texte. Si l'examinateur articule suffisamment et parle doucement, je peux aussi suivre sur ses lèvres. Donc, j'ai aucune appréhension particulière. Je me dis qu'il faut que j'y aille et puis j'ai la force de caractère. Je suis d'un signe zodiacal qui est le lion. Hein. Donc, j'ai la force de caractère nécessaire.
Les examinateurs, c'est peut-être ça qui fait le plus peur, non? Vous n'avez pas peur qu'ils soient trop rapides, pas assez tolérants, que ça les ennuie, que ça dure un peu trop longtemps, par exemple? Le décalage avec l'interprétation.
Non. Parce que en fait, je me présente comme un candidat normal par rapport au jury. Donc, au niveau des horaires, par exemple, c'est vrai que des fois, il y a un tiers-temps. Hein, si on veut un tiers-temps supplémentaire, on en bénéficie. Et c'est vrai que la priorité, quand même, c'est de présenter ça. Et le jury doit l'accepter. On est à égalité avec, enfin, égalité entre guillemets avec les autres candidats. Mais on bénéficie, c'est vrai, d'un tiers-temps supplémentaire.
Un tiers-temps qui n'est pas inutile pour vous. Vous n'avez pas l'impression?
Oui, parce qu'on peut davantage préparer, on a un temps plus long d'exposition, d'exposé. Et imaginons, par exemple, quelqu'un qui parle très lentement, un interprète qui prendrait son temps pour traduire, moi je préfère aller très très vite et puis m'exprimer et que le professeur spécialisé puisse suivre.
Jean-François Duteil, un mot sur les dispositions, les aménagements donc pour les épreuves. On a parlé du tiers-temps, expliquez-nous tout ça, en quoi ça consiste, en quoi ça peut aider ces élèves.
Concrètement, un tiers-temps pour l'écrit et pour l'oral, hein, qui leur donne quand même plus de latitude. On a bien vu à travers les explications d'Alexis. Pour les épreuves écrites, un professeur spécialisé qui va venir et qui va s'assurer que le sujet a été bien compris, hein, puisque comme l'a dit Alexis tout à l'heure, il y a une difficulté d'accès à la langue écrite pour les personnes sourdes, hein, qui certains problèmes de syntaxe qui sont un petit peu compliqués, donc on s'assure que le sujet est bien compris, ensuite le professeur s'en va et l'élève compose normalement.
Oui, on cherche à éviter le hors-sujet. Il faudrait pas que l'élève soit désavantagé par son handicap, mais après, après c'est le reste.
Voilà, il faut ni qu'il soit désavantagé, ni que l'intervention de ce professeur l'avantage. Donc c'est vraiment une question de dosage hein, qu'on a trouvé avec les organisateurs des examens. Hein.
Ça, c'est une question que j'ai envie de poser à vous, Alexis. Même si vous êtes devant votre directeur, c'est pas grave, je la pose quand même. Est-ce qu'il y a des aspects où vous êtes avantagé, où c'est plus facile, ou par exemple?
Chantage. Il n'y a pas de chantage. Alors moi, j'ai pas le même signe. Hein. Chantage, oui. Il n'y a pas de chantage. Je me présenterai pas comme, écoutez, je suis sourd, il faut être gentil. Avec moi, non. C'est vrai que si on m'offre un tiers temps supplémentaire, je vais travailler en fonction. Mais c'est vrai que il faut arrêter de penser que parce qu'on est sourd, on va être très gentil avec nous. Donc c'est vrai qu'on doit bénéficier de ce tiers temps pour encourager les personnes sourdes à se présenter si elles en ont besoin et de se préparer par rapport à l'écrit, ce que vient de dire le directeur. Au niveau de la structure syntaxique, c'est effectivement difficile. Il y a des difficultés. Et c'est vrai que des fois, on a peur des corrections. Parce que, par exemple, un examinateur, comme c'est anonyme, peut penser, ne sait pas que nous sommes sourds. Donc, il peut être sévère et que nous, on est très maladroit. Donc, on peut rater une épreuve comme ça, mais il faut l'accepter. Et puis, on se rattrape sur l'épreuve à l'oral, si on a échoué à l'épreuve écrite.
Sur l'écrit, on va parler, il nous reste une minute dans cette première partie pour parler de l'écrit en français, donc, pour vous, cette année. Vous vous attendez à avoir une bonne note, une mauvaise note? Comment ça va se passer?
La moyenne, entre les deux. Entre 9 et 12. Donc je dis entre 9 et 12, mais c'est déjà une bonne note pour des élèves sourds. Ah oui, il faut le dire, hein. C'est vrai que moi je fais des fautes d'orthographe, mais bon, quelquefois c'est vrai qu'on mémorise bien, mais qu'on est un peu perdu dans la syntaxe. Et bon, est-ce qu'il faut un accent? Est-ce qu'il faut un E à la fin du mot? Bon, et les professeurs des fois aussi se trompent. Hein. Ils maîtrisent pas forcément l'ouvre avec un S au bout. Des fois, il y a des professeurs, ils sont adultes. Bon, ils nous commettent des erreurs hein, au tableau.
Moi, j'ai passé le bac de français il y a 11 ans, ça fait un peu dur de le dire. Qu'est-ce qu'on vous demande déjà? Parce que je me souviens plus. Qu'est-ce qu'on va vous demander?
Peut-être un texte de théâtre ou un texte de roman. J'espère que ce sera pas de la poésie, parce que j'y suis pas à l'aise. Parce que c'est vrai que les sourds, c'est difficile. Moi, j'aime bien la poésie, il y a beaucoup d'émotions. Mais d'analyser, effectivement, par rapport à la versification, c'est quand même pas facile. Hein.
Jean-François Dutheil, le français, alors c'est la matière compliquée pour ses élèves.
Oui, c'est probablement la matière la plus difficile pour ses élèves. Ainsi d'ailleurs que toute matière qui est beaucoup basée sur la langue, hein, parce que c'est véritablement la difficulté d'apprentissage essentielle qui se présente, c'est l'apprentissage de la langue. Hein.
C'est celle qui passe en premier, hein, déjà ça peut être déstabilisant. Est-ce qu'il y a des élèves qui sont comme ça, tétanisés, bloqués, qui ont vraiment peur des examens? Déjà on a tous peur.
Je crois que c'est un petit peu comme tous les élèves, hein, si vous voulez, la peur des examens. Je crois qu'on la retrouve chez les élèves sourds comme chez les autres. Hein. Simplement, face à une épreuve de français, il y a une difficulté particulière quand même qui, on le sent bien au travers des propos d'Alexis. Hein, dès qu'on va entrer dans des notions un petit peu implicites, par exemple, c'est difficile. Certains accords vont être difficiles, certains mots de vocabulaire. Et donc, il y a forcément une appréhension face à une épreuve de français.
Ça veut dire qu'on prépare encore plus, vous préparez encore plus les professeurs et les élèves, le français?
Oui, très probablement. Et de toute façon, d'une manière générale, nos élèves, en fait, sont amenés à travailler plus que des élèves entendants. Hein. Et il a parlé tout à l'heure des cours de soutien. Bon, ce sont des heures supplémentaires, en fait, pour les élèves sourds, hein, qui viennent en plus des heures de cours normales. Hein, et tout au long de la scolarité, à partir du moment où ils sont assistés, c'est ça. Hein. Et donc, ils arrivent au bac en ayant beaucoup travaillé. Donc, il y a souvent un état de fatigue aussi. On le voit bien en terminale, avec des élèves qui parfois se découragent un peu, hein, parce que c'est quand même très, très dur.
On va marquer une première pause. Et dans quelques instants, on se retrouve pour parler de la scolarité. Donc, votre scolarité, on reviendra un petit peu en arrière avec vous, Alexis. On a appris également que vous avez participé à une émission de télévision, un jeu. On pourra revenir sur cette expérience particulière et puis on parlera de l'Institut et comment elle prend les élèves et la scolarité des élèves tout au long des classes. À tout de suite. On parle du bac aujourd'hui, le baccalauréat pour les étudiants et pour les étudiants sourds. Aujourd'hui avec nous, Alexis Dusset, qui était l'avant-première art appliqué et qui est interprété par Monique Gendreau. Monique Gendreau lui prête sa voix au micro. Et avec nous également, Jean-François Dutheil, qui est directeur de l'Institut National des Jeunes Sourds de Paris. On a parlé de ce moment difficile, le bac, le moment tant attendu, hein, souvent la fin de l'année. On va revenir un petit peu en arrière sur le parcours scolaire. Mais il me reste quelques questions quand même sur ce bac et ses épreuves. Pour vous, Alexis, vous maîtrisez donc la langue des signes, la LSF. Est-ce que ça peut être un atout? Est-ce que ça peut être présenté au bac? Est-ce que ça peut donner lieu à une bonne note, par exemple?
Oui. En fait, c'est une langue au même titre que l'anglais, par exemple. Donc, on s'exprime directement dans notre langue. C'est une langue naturelle pour nous. Il n'y a aucun blocage. On s'exprime naturellement. C'est notre langue. Et pourquoi il y a un interprète? Parce que c'est ma langue et qu'elle peut traduire de ma langue vers le français. On pourrait imaginer la même chose, un interprète de l'anglais vers le chinois et du chinois vers l'anglais.
Est-ce donc vous allez pouvoir présenter cette langue au bac et comment ça se passe cette épreuve?
L'année prochaine, oui. Je vais essayer de préparer ça parce que je suis en intégration. Donc effectivement, je suis le premier là en langue des signes. Et l'année prochaine, je vais être candidat à rattraper, par exemple, des points de philo que j'aurais perdus, le rattraper en langue des signes. Bon, ce serait une façon de rattraper, mais c'est ma langue maternelle, c'est vrai. Mais en même temps, il faut que j'essaie de me préparer à ça, oui.
Mais est-ce que vous allez avoir 20 sur 20, alors, en langue des signes? Est-ce que ça va être facile?
C'est possible. Si un sourd vraiment s'exprime de façon très à l'aise dans cette langue et qu'il la maîtrise complètement, oui, ça peut être ça. Ça veut dire qu'il n'y a pas de triche. Hein. C'est une langue qui m'est naturelle, donc il n'y a pas de triche, aucune triche.
Comme quelqu'un
je peux obtenir cette note. Voilà.
Comme quelqu'un qui est né aux États-Unis et qui aura 20 sur 20 en anglais, on le comprend bien.
Oui, c'est possible.
Jean-François Dutheil, quelques atouts pour ces étudiants, ces élèves sourds, par exemple sur le langue des signes? La langue des signes.
C'est un atout évident dans la mesure où maintenant l'option langue des signes existe au bac. Hein.
C'est récent ça.
C'est en fait ça a commencé l'année dernière pour une partie des bacs et c'est généralisé cette année pour l'ensemble des baccalauréats. Hein.
Et, c'est un peu une petite victoire. Enfin, c'était une injustice en tout cas qu'avant ce soit pas présentable au bac, la langue des signes.
À la fois, c'est très bien pour les personnes sourdes qui pratiquent la langue des signes, parce que ça leur donne un atout supplémentaire, comme Alexis l'a bien expliqué. Et puis en même temps, c'est intéressant parce que ça permet à un certain nombre de jeunes entendants de s'intéresser à la langue des signes. Hein, c'est aussi une accroche pour permettre, on le voit bien nous, à des jeunes lycéens entendants, qui ont par exemple des camarades sourds, de dire, tiens, je vais apprendre la langue des signes, je la présenterai au bac et donc c'est un élément de motivation. Hein. Ça crée une espèce de dynamique autour de la langue des signes qui est intéressante.
Alexis, alors ces élèves qui ne sont pas sourds et qui présentent la langue des signes au bac, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est intéressant? Vous en avez déjà rencontré?
Oui, à l'extérieur du lycée. Il y a des entendants qui maîtrisent la langue des signes. Il y a aussi des demi-sourds. Et quelquefois, des entendants signent, effectivement, pas dans mon école, hein, mais à l'extérieur. Dans mon école, bon, c'est vrai, ils sont un peu paresseux. Bon, c'est des artistes, mais la langue des signes, c'est pas la matière dans laquelle ils s'intéressent le plus.
Alors, on parle des autres matières. Donc, pour l'année prochaine, hein, quand vous serez en terminale, normalement, les matières que vous allez présenter, il y a beaucoup de choses autour des arts, j'imagine. Les matières où vous en sentirez plus à l'aise et d'autres qui seront plus difficiles.
L'art, c'est le plus difficile parce que c'est un très fort coefficient. Donc, il faut rattraper beaucoup de points. Bon, la chimie, effectivement, c'est des coefficients 1 ou 2. Donc, priorité à l'art, parce que si on réussit une épreuve de chimie, ça sert pas à grand-chose avec un coefficient de 1 ou 2. Donc, la priorité, c'est l'art et c'est vraiment le coefficient le plus fort. Donc, c'est difficile.
Jean-François Dutheil, les filières que l'on voit. Alors là, on voit Alexis qui est en art appliqué. Quelles sont les filières où on se dirige le plus souvent quand on est sourd? Ou alors, peut-être c'est une mauvaise question et on peut... aller partout.
Disons que c'est une question qui se pose quand même de moins en moins. Hein. On constate, nous, parmi nos élèves, une grande diversification des filières choisies. Hein. Les années passent et on a de plus en plus de jeunes qui choisissent des filières tout à fait spécifiques. Et on peut dire maintenant, en tout cas au niveau de l'enseignement général, qu'on peut trouver des élèves sourds à peu près dans toutes les filières. Hein. Les questions sont un petit peu différentes après, on pourrait en parler, mais en tout cas, au niveau enseignement général, maintenant, il y a quand même une certaine égalité, avec quand même la difficulté, bien sûr, à chaque fois, d'avoir le soutien dont on a besoin. Et plus les élèves sont dispersés, et plus il est difficile de leur apporter le temps d'accompagnement dont ils auraient besoin.
Alexis, peut-être une réaction? Vous avez choisi cette filière avant tout par goût personnel?
J'ai pas choisi vraiment art appliqué. C'est vrai que j'étais très intéressée par l'art, l'histoire, mais j'ai choisi. En fait, j'avais pas forcément le goût. C'était la dernière chance pour passer mon bac, parce que j'étais dans un lycée général, complètement perdu. Hein. C'est un enseignement ordinaire, et c'est vrai que. C'est vrai qu'au démarrage, quand j'étais intégrée dans ce lycée, ben j'étais complètement perdue parce que les autres avaient un bien meilleur niveau que moi. Et c'est vrai que là, je me suis sentie davantage concernée parce qu'on m'a aidée davantage aussi. Et c'est comme ça que je me suis mise au travail. Ça m'a motivée. Et je me suis dit, je vais pouvoir passer un bac. Ça m'a donné les clés pour démarrer, quoi, et l'ascension. J'arrive au sommet. C'est avec beaucoup de volonté. Il faut savoir que je me suis quand même agrippée aux parois, mais c'est vrai que je vais oublier les 3 ans de lycée qui ont été horribles, hein, pour moi. Bon, et ces 3 années-là ont été terminées. Et c'est vrai que bon, maintenant je veux passer mon bac et je veux aller à l'université. Au collège, par exemple, c'est vrai que je voulais littéraire parce que j'adorais le français. Bon, l'art, parce que c'était adapté aux conférences, à la politique, enfin bon. Donc, c'est vrai que c'est là où je suis très bavard et où je préfère m'exprimer, les sujets qui m'intéressent. Et c'est pour ça que... ça, c'est quoi comme... STI, d'accord. Donc, la dernière année, après, on n'en parle plus et on passe à autre chose. Donc là, c'est la dernière ligne droite.
Il y a eu un moment où vous avez failli être dégoûté de l'école ou tout arrêter. Est-ce qu'il y a eu un moment comme ça?
C'est difficile à dire. Parce que ma classe, quand même, c'est vrai que ça bavarde beaucoup. Ils pensent peu à moi. Il m'oublie, en fait. Il m'oublie. Je suis comme invisible parmi les entendants. Alors, c'est vrai que ça bavarde énormément, mais des fois, eh ben, il faudrait qu'ils pensent quand même, échanger avec moi, parler doucement, articuler pour que je puisse lire sur leurs lèvres. Et au niveau de la communication et des informations, je suis un peu mis à l'écart, c'est-à-dire que je suis pas au courant de l'absence des professeurs et souvent je suis obligée de m'adresser à l'adulte pour avoir les informations. Hein. Je peux pas m'adresser aux camarades qui pensent pas à moi. Donc
c'était,
voilà.
C'était comme ça au collège ou avant à l'école primaire, c'était plus difficile, moins difficile?
Au collège, c'était moins difficile parce que c'était une école spécialisée pour les sourds. Donc c'était le cours Morvan. Donc c'est une école spécialisée pour les sourds et les élèves s'exprimaient en langue des signes, l'enseignement était en langue des signes. Donc c'est vrai qu'ils s'adaptaient au niveau aussi des élèves. Donc j'ai travaillé comme ça et puis ensuite j'ai été mis en intégration dans le milieu ordinaire général et là ça a été un gros changement avec beaucoup de difficultés bien sûr. Et moi j'ai été très motivée parce que je suis très accrochée aussi au monde de la voix quand même. Et le monde des entendants m'intéresse, et ça m'intéresse de communiquer avec les entendants. Et la radio, par exemple, bon, c'est vrai que je suis obligée de m'exprimer en langue des signes, c'est ma langue maternelle dans laquelle je suis à l'aise. Je suis un peu timide, mais en même temps, je suis ravie de m'exprimer dans une radio avec la voix d'un interprète.
On est ravis aussi de vous recevoir et de pouvoir vous permettre de vous exprimer, évidemment, dans cette radio à Vivre FM. Jean-François Dutheil, Alexis nous a retracé comme ça une partie de sa scolarité. Alors, qu'est-ce qu'on choisit? Les classes spécialisées, le milieu ordinaire, à quel moment? Est-ce qu'il faut se faire aider depuis le début? Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a un parcours modèle ou... Parce que j'imagine qu'il y a des élèves qui arrivent vers vous qui ont souvent eu des parcours, des mauvais souvenirs et des parcours difficiles.
Oui, on voit arriver beaucoup d'élèves qui ont eu un parcours assez chaotique en fait, hein, et souvent les parents sont assez désemparés pour choisir la bonne solution de scolarisation, et donc il y a des essais qui se font pendant 2 ans en milieu ordinaire, ensuite on va en milieu spécialisé, ensuite on change d'établissement, donc les parcours sont souvent très 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 chaotiques. Dire qu'il y a une bonne solution, à mon sens, il n'y a pas de modèle unique, hein, c'est vraiment en fonction de la situation de chaque jeune qu'il faut trouver la bonne solution, hein. Et nous, on accompagne des élèves qui peuvent être individuellement comme Alexis. On a aussi un certain nombre d'élèves qui sont dans des petites classes de sourds qui sont implantées dans des écoles de l'éducation nationale. Et puis, on a aussi des élèves qui sont dans l'institution. Et vraiment, ce que je dis toujours, c'est qu'il faut préserver les trois modèles pour pouvoir faire circuler les élèves d'un à l'autre, dans un sens ou dans l'autre, s'il y a besoin. Bien sûr, en évitant de tomber dans l'écueil qui serait de trop les surprotéger, hein, et quelque part de bloquer leur autonomie, hein, mais c'est une alchimie qui est un peu compliquée.
C'est quelque chose qu'on entend, ça, qu'il y a un monde des sourds. Alors, est-ce que vous, à l'institut, par exemple, vous favorisez l'ouverture, les échanges, c'est quelque chose d'important?
Oui, c'est extrêmement important. On essaie, à côté de l'activité pédagogique, de proposer énormément d'activités pour les jeunes ouvertes sur l'extérieur. On fait entrer des gens aussi du monde extérieur dans l'institution, des associations, il y a des activités culturelles, sportives, il y a même des activités musicales maintenant qu'on met en place, hein, c'était un espèce de pari et puis on se rend compte que ça a énormément de succès.
C'est bien un van.
Voilà. donc on essaie de travailler beaucoup cette dimension d'ouverture, hein. Mm-hmm. Les accompagner au maximum vers l'autonomie et puis ceux qui sont un peu plus âgés, de les aider à préparer leur entrée dans la vie active, à se débrouiller dans le monde extérieur pour chercher du travail.
Il y a une autre question qui se pose, c'est la façon de communiquer, la façon de travailler. Alors, il y a la langue des signes, il y a parler, pas parler. Comment on choisit l'une ou l'autre solution? Est-ce qu'il faut en avoir un maximum ou est-ce que c'est une solution contre une autre?
Moi, je dirais, j'ai vraiment une position assez humble par rapport à ça. On essaie, nous, d'accueillir les enfants tels qu'ils sont. Hein, et il y a un constat qu'on peut faire, c'est que les enfants tels qu'ils nous arrivent ne rentrent pas dans les modèles préétablis. Hein. Hein. En fait, si on s'en tient au cadre législatif, il y a 2 filières possibles. Hein. Soit l'enseignement bilingue, hein, basé sur la langue des signes, soit un enseignement basé sur le français oral. Les parents sont censés faire un choix entre les deux. Mais très rares sont les élèves qui rentrent dans l'une des deux catégories. Hein. En revanche, on peut mettre en avant le modèle de certains professionnels sourds de notre institut, qui maîtrisent à la fois l'oral et la langue des signes, hein, et qui finalement ont toute une palette d'outils de communication à leur disposition. Hein. Alors c'est pas facile forcément pour tout le monde de maîtriser l'oral, mais nous on cherche à leur donner un maximum d'atouts et on évite de tomber dans des modèles trop catégoriques, hein, qui ont pu prévaloir avant dans l'enseignement des sourds. D'ailleurs, soit le modèle oraliste, hein, soit le modèle purement langue des signes. Hein.
Alexis, dans ces deux modèles, alors on a compris que la langue des signes était votre langue maternelle. Comment ça s'est fait le choix? Est-ce que il y a des croyances dans votre famille ou est-ce que c'est en fonction des possibilités? On entend des choses comme ça. Hein.
Bonne question, c'est très intéressant. En fait, je peux utiliser la langue des signes, ça dépend face à qui. Par exemple, face à un anglais, bah, je parlerai anglais. Donc je signe avec des sourds, avec mes amis, sourds. Là, je m'exprime en langue des signes. Mais face à une personne entendante, je vais m'exprimer à l'oral et face à mes parents aussi. Par rapport à des collègues extérieurs au château de Versailles, c'est vrai que je vais faire l'effort d'articuler et de parler. Il faut un équilibre entre les deux, entre les deux modes de communication et selon les personnes face auxquelles on se trouve. Il faut faire le pont entre les deux mondes. Il faut poser ses valises un coup dans un, hop, reposer ses valises un coup dans l'autre.
Alors justement, on va parler d'un souvenir où précisément c'était le pont entre deux mondes. Vous avez participé à une émission de télévision. On écoute un petit souvenir et on en parle juste après.
Je voudrais vous présenter Alexis Ducey. Il va être rejoint par... Non, Béatrice est en train de lui faire signe, car Alexis est sourd. Et je voulais juste vous signifier qu'il avait fait une excellente participation d'abord à cette émission aujourd'hui, mais qu'il s'était qualifié sur Internet. Bonsoir Alexis.
Oui, bonsoir. Je suis vraiment très content en fait, je suis très heureux d'être ici, c'est la première fois, je crois qu'un sourd participe à ce type de jeu et c'est assez rare pour me donner beaucoup de plaisir et je joue aussi pour tous les sourds qui me regardent.
Voilà, ça c'était un extrait du grand tournoi de l'histoire, hein, c'était sur France 3, l'émission était présentée par Yves Calvi, vous avez eu le droit d'ailleurs à une présentation particulière, alors rappelez-nous un petit peu comment ça s'est passé, un bon souvenir?
Le meilleur. Quand j'entends la voix de l'animateur, là, je me rappelle du public, il y avait 50 candidats et j'étais le seul sourd parmi tous les autres. Ça fait quelque chose, hein. Et je me suis dit, il faut pas que je sois timide, il faut que j'affiche un grand sourire. Donc c'était la première fois que je venais à la télévision et en fait je voulais réveiller les autres sourds et leur dire que c'était possible de participer à des jeux, à des émissions télévisées. J'avais envie de réveiller les sourds par rapport à ça.
Comment ça s'est passé? Vous avez fait un beau résultat? Vous avez gagné?
Non, j'étais éliminée. Troisième place.
Troisième place, c'est pas mal. Je vous propose de marquer une petite
pause. J'étais quand même content.
On va en parler encore un petit peu, hein, parce que j'ai quelques questions à vous poser par rapport à ça. On marque une nouvelle pause et puis on se retrouve pour parler de l'avenir professionnel aussi, comment trouver du travail ensuite. À tout de suite. Aujourd'hui, jour du baccalauréat, on parle du bac pour les étudiants sourds. Avec nous toujours Alexis Ducey, qui est élève en première art appliqué. Il est interprété par Monique Gendreau et Monique Gendreau lui prête sa voix au micro. Et avec nous toujours Jean-François Dutheil, le directeur de l'Institut National des Jeunes Sourds de Paris. Alexis, juste avant la pause, on était en train de parler de cette expérience télé. Ça fait 2 ans, hein, c'est ça. Est-ce que, donc, on a compris que c'était votre participation. Est-ce que c'était aussi un message que vous vouliez faire passer? C'était pas innocent comme ça d'être à la télévision?
Oui, c'est ça, c'était pour un message. C'est un combat. C'est vrai que la culture française met un peu à l'écart les sourds, le cinéma, l'histoire, la littérature. Il faut s'intéresser aux sourds. Moi, je me rappelle, au niveau du tournoi, il y avait un comédien. Alors, moi, j'ai pas compris le comédien. Sylvie. C'était un comédien de La Plus Belle Vie, sur France 3. Mm-hmm. Sylvie, donc, une comédienne. Et en fait, elle avait appris la langue des signes. Et ça m'a donné confiance en moi. Et ça m'a motivée pour entrer dans ce monde-là, la télévision. En fait, il faut que les sourds participent au monde culturel, le château de Versailles, aillent dans les musées. Il faut qu'ils connaissent l'histoire de la baie de l'épée, par exemple. Et il faut que les entendants aussi soient dans un partage de la culture sourde et que nous, nous soyons dans le partage de la culture entendue.
Alors ça, c'est un joli message. Votre participation à ce jeu, comment ça s'est passé? C'est vous qui êtes arrivé et qui avez frappé à la porte. Comment s'est passé les sélections? Parce que je crois qu'il y a des sélections avant le jeu en lui-même. Est-ce que tout le monde s'est posé la question comment
oui,
on va faire?
Ben, ça a été simple. C'est par Internet. Effectivement, j'ai répondu aux questions. C'était des petites questions, hein. C'était très facile à répondre. Et j'ai été sélectionnée à partir de ça. Ça s'est passé très simplement. Et c'est vrai que, après, j'ai fait savoir que j'étais sourd. Et mes parents, ont dit, mais mon fils est sourd, mais c'est pas grave, nous ferons venir un interprète. Et ils m'ont accepté d'emblée. Et c'est vrai que j'ai eu beaucoup d'émotions, pardon.
Oui.
Et ça a été très fort pour moi, ce moment-là.
Jean-François Dutheil, oui, un manque de représentation, hein, c'est ce que nous dit Alexis, c'est vrai. Tout simplement, à la télévision, voir, par exemple, des personnes sourdes, il n'y a pas qu'à la télé d'ailleurs. C'est quelque chose dont vous parlent vos élèves, c'est vraiment une préoccupation de faire part, j'ai envie de dire, de faire partie du monde après.
Oui, je crois qu'il y a une difficulté de départ qui est que la surdité est un handicap invisible. Hein. On ne voit pas que quelqu'un est sourd dans la rue, hein, sauf s'il est en train de parler en langue des signes avec quelqu'un d'autre. Donc il y a cette difficulté de ce manque de visibilité et bien sûr on voit très peu les sourds, bien sûr. C'est certain ce que dit Alexis, c'est assez réconfortant en tout cas de constater qu'il a été accepté sans difficulté à cette émission. Donc mais
comme quoi c'est possible. Hein,
c'est possible, mais bon il est aussi entré par Internet et puis sa candidature a été retenue. Donc là il a dit je suis sourd. Bon ben voilà il était
frappé,
là.
C'est ça,
il avait peut-être un petit peu forcé la porte, je sais pas. Hein. Mais
vous, les professeurs, vous devez donner confiance aux élèves en l'avenir. On va parler dans quelques instants du travail. Il
oui,
faut leur donner confiance.
Oui, oui, on cherche à leur donner confiance en eux, dans leurs atouts. Par exemple, cette année, on a monté une action théâtre avec une association qui a pour but de mettre les jeunes en situation d'entretien professionnel, de recherche d'emploi. Donc, il y a des jeux de rôle et on leur fait prendre confiance en eux et on essaie de leur faire surmonter un petit peu les obstacles hein, qui sont les obstacles de communication et qui sont des difficultés dans ce type de situation. Hein. Et on se rend compte que ça donne des bons résultats. Hein. Et puis, de toute façon, les jeunes ont une motivation. Simplement, à certains moments, ils vont se sentir en difficulté face à une situation. Et puis, il faut essayer de les aider dans l'idée qu'ils se font de cette situation. Hein, parce que les atouts, ils les ont et parce que la capacité à communiquer, ils l'ont, et la volonté de communiquer, ils l'ont, peut-être plus souvent que les entendants d'ailleurs.
On va écouter maintenant le témoignage de Laetitia. Laetitia, elle est sourde profonde, elle a Bac plus 5, des études d'art appliquées aussi, et de graphisme, et maintenant elle est employée à la mairie de Paris. Dans une précédente émission, elle évoquait son entrée dans le monde du travail. On l'écoute.
Quand j'ai fini mes études, le hasard a fait que j'ai commencé à rentrer dans la vie professionnelle par des stages. Ensuite, par des contrats, j'ai toujours été terminé. C'est aussi pour savoir dans quel mois je voulais y aller. Parce que les premiers temps, je ne sais jamais très bien ce que je veux faire. C'est-à-dire, il y a tellement de choses dans le graphisme, il y a les DVD, les affiches, il y a le web aussi, Internet qui était nouveau. Donc, j'ai travaillé dans les entreprises privées. Et puis en 2003, à la fin de mon contrat, j'ai envoyé des centaines de CV.
Des centaines?
Oui, des centaines. Oui, tout à fait. Des centaines de CV aux entreprises privées et aux administrations, c'est-à-dire aux services publics, pour élargir éventuellement. Et finalement, mes CV ont trouvé quelques lecteurs attentifs. Et j'ai choisi la mairie de Paris, qui me semblait le plus intéressant.
Est-ce que ça a été long de trouver un emploi? Est-ce que vous avez eu des mauvaises expériences en entretien ou au téléphone avant de trouver ce travail?
Alors, c'est vrai que sur la plupart de mes CV, j'avais précisé que j'étais sourde. Et j'obtenais pas énormément de réponses. Du coup, j'ai changé de méthode. Je n'ai plus mis que des sourdes et j'avais plus de réponses affirmatives.
Voilà le témoignage de Laetitia sur son entrée dans la vie professionnelle. Elle travaille dans l'administration, elle est fonctionnaire, comme on dit. Une réaction peut-être à Alexis et à Laetitia qui a dû envoyer quand même une centaine de CV avant d'avoir des réponses affirmatives. En même temps, c'est pas facile, c'est la crise, et en même temps, elle avait son handicap auditif.
En fait, il faut dire que par rapport aux pays étrangers, la France avance comme une tortue. Les autres sont beaucoup plus en avance que nous. Je ne dis pas que la France n'accepte pas les personnes sourdes, mais elle est très en retard. Il faut qu'elle rattrape son retard par rapport aux autres pays. Par exemple, j'ai des amis sourds qui ont le bac plus 3, plus 4, voire plus 5 et qui sont au chômage. Parce qu'ils ne savent pas parler, donc effectivement, il y a une discrimination, on ne les accepte pas sur les postes de travail. Moi, j'ai un ami garçon qui a bac plus 6 en histoire et archéologie et il n'a pas trouvé de travail parce qu'il ne parle pas. Donc ça me choque. Il a envoyé les lettres de motivation, les CV, etc. Et il m'a dit, il n'arrive pas. Et il faudrait arriver à trouver un entretien, mais comment, accompagner comment. Et en fait, il ne trouve pas de travail, donc il repasse des études, mais il perd du temps. Il va faire bac plus 7, bac plus 8, bac jusqu'à combien, comme ça. Et c'est vrai qu'il a quand même 27 ans. Je connais bien, et il connaît bien l'histoire, on partage la même passion, et il a abandonné la recherche de travail, il a repris des études. Alors c'est vrai qu'on se dit, avec les sourds qui obtiennent des bons diplômes en intégration, mais une fois qu'ils sont sortis de l'école, par exemple de Saint-Jacques, c'est quand même très difficile de trouver du travail. Moi, au niveau personnel, je dis que c'est la France est comme ça. Si on se met à ma place, on est un peu victime. C'est vrai que, mais d'où vient la passe? On devrait faire attention au public sourd là qui est diplômé. C'est vrai que au niveau de la communication, on a le même niveau de connaissance. Il faut faire des efforts, il faut se battre pour être compris, pour comprendre les autres. Et il y a effectivement tous les moyens de communication en place. On peut articuler, on peut communiquer par l'écrit. Il y a quand même, il faut pas avoir peur d'embaucher des sourds. Et des sourds qui préfèrent rester avec des sourds, non, c'est pas non plus la bonne solution. Et il y a un monde sourd, il y a un monde entendant, mais il y a un troisième monde qui est possible, et c'est les implantés, par exemple. Il faut savoir que c'est pas facile, on n'est pas forcément accepté par la communauté sourde non plus. Donc il y aurait peut-être un troisième monde. Donc moi je suis pas d'accord à faire des mondes qui soient séparés comme ça. Je veux que on soit tous identifiés comme sourds, implantés, pas implantés. Pas de troisième monde qui soit à part avec les sourds implantés. C'est vrai que ils auront des diplômes, ils auront la langue des signes, ils auront. Il faut pas comme ça. La France est mal organisée, je trouve. Donc, moi, je m'adresse au ministre. Hein, et il faut vraiment prendre la mesure des personnes handicapées et vraiment les employer.
Alors on peut rappeler aussi qu'il y a une loi, que les aménagements de postes sont pris en charge pas par l'entreprise, mais par la collectivité. Ça c'est un des arguments qui peut convaincre les employeurs. Comment on fait, Jean-François Dutheil, pour assurer pour vos étudiants la suite, convaincre les employeurs, leur trouver des stages par exemple? Est-ce que c'est plus difficile?
On a, nous, un service qui suit les élèves pendant 2 à 3 ans après leur sortie. C'est-à-dire quand ils sont là, qui va s'occuper de leur stage et qui ensuite s'occupe de les aider. Hein. Mais on a besoin aussi de faire beaucoup de communication vis-à-vis des entreprises, à la fois pour trouver de nouveaux terrains de stage, et c'est pas toujours simple. C'est pas toujours simple de trouver des employeurs qui acceptent nos élèves. Cette année, on met en place une section en apprentissage, donc on doit chercher des maîtres d'apprentissage. Et par exemple, on a trouvé uniquement des collectivités publiques. C'est dans le domaine de l'horticulture. Aucun employeur privé n'est prêt à accueillir un sourd parce que tous pensent que ça va poser des problèmes de communication, de sécurité avec le matériel. En fait, on se heurte quand même beaucoup d'idées préconçues sur la surdité et sur l'accueil d'un sourd en entreprise.
Vous organisez des journées de formation professionnelle. À quoi ça peut servir dans cette optique-là?
Alors, ces journées de formation professionnelle, au départ, l'idée était de remercier les entreprises qui nous aident parce qu'on perçoit de la taxe d'apprentissage. Donc, on a des ateliers qui sont équipés grâce aux entreprises. Et puis, c'est devenu, au bout de 3 ans, une opération de communication vis-à-vis du monde professionnel pour montrer le savoir-faire de nos élèves. Et donc, il y a un certain nombre de réalisations qui sont présentées à cette occasion, qui sont assez spectaculaires. Et puis, c'est un lieu de contact entre entreprises au milieu du monde de la surdité. Et donc certains vont témoigner auprès des autres qu'ils ont accueilli des jeunes sourds et qu'après tout, les choses se passent bien et que ces jeunes sont bien intégrés dans l'entreprise. Et nous, on essaie aussi de développer un certain nombre de supports à cette occasion qu'on remet aux employeurs ou qu'on leur montre pour expliquer comment peut se passer la communication et qu'après tout, accueillir un sourd, c'est simple, qu'il y a quelques conseils simples à connaître et qu'après tout se passe bien et que souvent... Le problème de l'intégration en entreprise, c'est pas tant le problème de la personne sourde que le problème de l'entourage professionnel. Hein. Il faut que les gens prennent conscience d'un certain nombre de petites choses très simples et puis après les choses peuvent se passer correctement.
Les élèves, vous les suivez après, vous avez ils vous donnent des nouvelles de ce qu'ils sont devenus, comment ça se passe en général?
Oui, alors effectivement, comme je vous disais, on les suit pendant 3 ans pour les aider hein, sur leur insertion professionnelle et puis on a aussi des contacts avec des anciens élèves qui sont partis depuis plus de 3 ans et notamment à l'occasion de cette journée du 27 mai sur les formations professionnelles, il y a un nombre significatif d'anciens élèves qui sont venus, qui ont profité de cette journée pour revenir à l'Institut, nous rencontrer, qui étaient très 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 heureux d'être là. Et puis on a aussi voilà des jeunes qui viennent nous dire « ça y est, j'ai trouvé une solution, un emploi qui me convient, je suis content, tout se passe bien ». Et nous on est très heureux à ce moment-là bien sûr.
Alors on approche de la fin de cette émission, le temps quand même de demander à Alexis comment vous voyez la suite, c'est une question un peu bébête, qu'est-ce que vous voulez faire plus tard j'ai envie de dire, vers quoi vous dirigez, est-ce que vous avez déjà fait des stages par exemple?
Oui, en troisième, au collège, effectivement j'ai effectué à ce moment-là un stage, et en fait c'était dans le monde de l'art puisqu'il s'agissait du château de Versailles. Et ça, c'était un environnement qui m'a beaucoup aidé parce que j'aimais beaucoup l'histoire. Et on a commencé à me payer comme ça. D'ailleurs, j'ai été rémunérée parce que j'ai commencé à être guide. Et parce qu'il faut savoir que les monuments ont dû être accessibles aux sourds également, au public sourd. Donc, pratiquer des visites en langue des signes. Et en fait, moi, la première option, c'est d'avoir mon bac quant à mes projets d'avenir. Et la deuxième option, c'est une difficulté pour moi. Bon, si j'ai le bac, hein, bien sûr, c'est aller à l'université, mais ça va être très difficile. Parce que des écoles de l'art ou des écoles d'archéologie, ou je suis capable. Mais l'accessibilité, il me faut un interprète et un tutorat. Donc, effectivement, à la Sorbonne, oui, à la Sorbonne, donc Paris 4, il y a un tutorat qui est mis en place. Et puis, c'est vrai qu'à l'école privée du Louvre, il y a aussi un tutorat. Donc, je vais passer les concours au mois de septembre prochain.
Bon courage alors et bonne chance, Alexis. On va terminer avec vos réponses aux questions posées par nos auditeurs sur internet, www.vivrefm.com, rubrique émission, et Vivre FM c'est vous. D'abord on a Didier qui nous vient de Melun et qui nous dit « Les sourds ont autant de capacités que les autres, mais le système ne leur permet pas de les exploiter. » Peut-être on peut entendre Alexis sur cette question, cette remarque de Didier.
C'est difficile de répondre à cette question. Parce qu'il y a plein de personnes différentes dans le monde de la surdité. C'est comme entre un Africain et un Suisse. Hein. Il y a des compétences, c'est vrai. Il y a aussi l'éducation qu'on a reçue des parents. S'ils nous ont poussés à lire, par exemple, c'est vrai que moi, j'ai fait des progrès en termes de lecture et d'écriture parce qu'on m'a poussé à les faire. Et puis, ça dépend si on suit des séances d'orthophonie ou pas. Donc, on fait des progrès, on atteint un niveau suffisant... pour pouvoir s'intégrer dans des filières intéressantes. Et c'est vrai que ça dépend si on est issu d'une famille sourde ou si on est issu d'une famille entendante. Moi, je suis mal placée pour répondre et là, je ne répondrai pas à cette question.
Il ne faut pas faire de généralité, on a compris. Alberte de Courbevoie nous dit « Déjà que les sourds ont du mal à apprendre le français, je ne vois pas comment ils peuvent pratiquer une langue étrangère. » Jean-François Dutheil.
C'est un petit peu un jugement de valeur quand même, je trouve. Il y a un certain nombre de personnes sourdes qui pratiquent bien les langues étrangères. L'apprentissage du français, il y a des difficultés bien entendu, mais il n'y a pas d'impossibilité. Il faut travailler. Et puis Alexis prouve que le français, il s'y intéresse et il le maîtrise.
Moi, je possède l'anglais, par exemple, dit Alexis. J'ai travaillé l'anglais.
Non, je trouve que c'est un petit peu un jugement de valeur de dire ça. Je m'excuse auprès de cette auditrice, mais...
Alors, on répond à toutes leurs questions, en tout cas telles qu'elles. La dernière question pour Alexis. Vincent de Paris nous dit « C'est plus facile pour un étudiant sourd de tricher en langue des signes. »
Merci pour la question. Ah ben merci, si je dois effectivement m'introduire dans le monde de l'université, bon, et pourquoi est-ce que je tricherais? Je veux pas devenir comme un bouc émissaire. Imaginons que je vais à l'université, si on me conçoit comme un tricheur, parce que j'ai la langue des signes, c'est vrai qu'on a à se faire des camarades pour pouvoir être aidé et s'entraider, mais ça, je n'ai jamais triché, jamais, jamais, jamais. Et moi, j'ai donné beaucoup de choses, mais les autres ne m'ont jamais donné autant que j'ai donné. Et bon, il n'y a pas eu cet échange que j'aurais aimé. Donc, c'est vrai que moi, j'ai apporté beaucoup de choses. On ne me l'a pas apporté. J'ai apporté des bouées de sauvetage, même aux autres qui ne m'ont jamais rendu.
Merci beaucoup à tous les deux. Je rappelle le site de l'Institut National des Jeunes Sourds de Paris, www.ings-paris.fr. Merci beaucoup à vous deux.
Vivre FM.
Et lundi 22 juin dans Vivre FM, c'est vous et dans toute la France, c'est la journée nationale de la réflexion sur le don d'organes et la greffe. On parlera du don d'organes, de la greffe dans cette émission. Comment ça se passe? Quels sont les risques? Quels sont les avantages? À qui est-ce adressé? Et bien sûr, à l'issue de cette émission, ce qui serait souhaitable, c'est que vous fassiez votre choix. Vous pouvez choisir de donner ou de ne pas donner. L'essentiel, c'est de savoir. On vous le dira, on répétera ce message dans cette émission consacrée au don d'organes et à la greffe. Lundi à midi dans Vivre FM, c'est vous. Bon week-end.